9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
En septembre 1325, le roi de France s'appelle Charles IV. C'est un des fameux rois maudits, vous savez. Il a 31 ans et il a la joie d'accueillir à Paris sa sœur Isabelle, sa proche cadette. Elle est devenue Isabelle au sortir de l'enfance, l'épouse du roi d'Angleterre, Édouard II. Imaginez une reine absolument ravissante. Elle a un port absolument royal, elle est magnifique, elle est là. Elle se présente avec son fils aîné qui lui aussi se prénomme Édouard, prince de Galles, âgé de bientôt 13 ans. La rencontre est à la fois familiale et politique puisque l'Angleterre et la France sortent d'une courte guerre et que des tractations ardues ont lieu pour prolonger la suspension d'armes. Isabelle, qui se trouve en France depuis plusieurs mois, a activement participé à ces négociations et si son fils l'a rejointe, c'est parce qu'il doit un serment de fidélité à son oncle Charles IV, ce qu'on appelle l'hommage, hommage pour des fiefs anglais en France. Et pourtant, la satisfaction de la reine est assombrie aux yeux de tous par quelque chose. Charles IV, en la voyant arriver devant lui, lui prend la main, l'embrasse et, sans lâcher sa main, il s'enquiert avec beaucoup de délicatesse des nouvelles de sa sœur. « C'est vrai, dit-elle à son frère, c'est vrai, elle va petitement. » Si l'on reprend le chroniqueur Froissart, elle va jusqu'à préciser « Mon mari m'a prise en trop grande haine par le conseil d'un chevalier qui s'appelle Hugh Despenser. Ce chevalier a tellement attrait à soi et à sa volonté que tout ce qu'il veut dire et faire, il advient. » Le roi de France n'est pas étonné de ce qu'il entend. Isabelle, il le sait, souffre dans son mariage. Difficile d'imaginer le nombre d'humiliations, le nombre de frustrations qu'elle a eu à affronter depuis son mariage. Il faut vous dire que dès son arrivée en Angleterre, au début de 1308, donc 17 ans plus tôt, alors qu'elle était encore une frêle princesse de 12 ans, tout a mal commencé. Son nouveau mari, Édouard II, elle le voit bien, a constamment près de lui un beau jeune homme qui s'appelle Gavestone, dont la discrétion n'est pas la première qualité. Georges Minois en donne un exemple avec le couronnement qui intervient juste après le mariage royal. La délégation française est scandalisée de voir que le rôle principal est confié à Pierre Gavestone, que le roi honore ostensiblement dans le banquet qui suit, délaissant sa jeune femme pour aller s'allonger près du favori, somptueusement vêtu, tandis que les tapisseries qui ornent le hall, au lieu de porter les armes de France et d'Angleterre, portent les armes d'Édouard et de Gavestone. Isabelle, toute inexpérimentée qu'elle puisse être, a de quoi se sentir mal. La noblesse anglaise elle-même est vent debout contre cet impudent Gavestone, dont l'influence apparaît extraordinaire, beaucoup trop forte et évidemment funeste aux yeux de tous ceux qui aimeraient peut-être s'arroger une partie du pouvoir en Angleterre. Bref, la situation est explosive et ça va faciliter des désordres, et beaucoup de désordres. Pendant ce temps, Isabelle fait son chemin dans cette rude cour d'Angleterre. Elle grandit, elle apprend. Après 4 ans passés à la cour de Londres, le vent finit par tourner. Une révolte nobiliaire va déborder le roi et va aboutir à l'exécution de Gavestone. Ça facilite, semble-t-il, les rapports du couple royal. Et peu après, à la fin de 1312, le petit Édouard va donc voir le jour. Le roi, c'est évident, a du respect pour son épouse, qui se révèle solide, altière, pleine d'habileté. C'est un esprit politique, cette Isabelle. Il va d'ailleurs lui confier un certain nombre de missions de confiance. Seulement, l'Angleterre affronte à ce moment-là de grands troubles. Des troubles face auxquels le souverain est à la peine. Il va essuyer un échec cinglant en Écosse en 1314. Après quoi, il y a de grosses révoltes dans les années qui suivent. Révolte conclue dans la violence en 1322. Et maintenant, ce sont deux autres personnalités qui dominent Édouard. Hugh Despenser, père et fils, le plus jeune étant, croit certains, l'amant du roi. À leur tour, les Despenser prennent un pouvoir immense et se servent dans la caisse. En temps de lutte avec la France, ils vont même oser malmener la reine. Je cite Bernard Cotteret dans « Ces reines qui ont fait l'Angleterre ». C'est toujours un plaisir de citer Bernard Cotteret. Isabelle est de plus en plus perçue comme l'étrangère et les Despenser mettent à profit la situation pour l'humilier davantage. Ses biens sont même placés sous séquestre et l'on baisse autoritairement son revenu. On chasse également ses fidèles serviteurs français, on finit même par lui ôter la garde de ses jeunes enfants. Le pape s'indigne depuis Avignon. Isabelle voit bien qu'elle est incapable de contrebalancer l'influence des Despenser, mais elle n'en pense pas moins. Or, voilà qu'une trêve survient donc entre la France et l'Angleterre. Les attaches d'Isabelle avec le royaume d'Hélice, le sens politique qu'elle a su manifester par ailleurs, la désignent pour aller travailler aux clauses de la paix. Début 1325, elle va effectuer un voyage diplomatique en France et puis en septembre, comme je vous l'ai raconté au début de ce récit, elle accompagne son jeune fils pour son hommage à Charles IV. Pour la reine, c'est le point de départ d'une vengeance à peine croyable. Un extrait de l'ouverture d'Hugo Comte de Paris de Gaetano Donizetti. C'est un assez récent enregistrement de l'Orchestre National d'Île-de-France sous la direction d'Enrique Mazzola.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Donc, le 24 septembre 1325, le prince Édouard prête serment à son oncle Charles IV, à son oncle capétien. Cette étape doit apaiser les relations franco-anglaises et par ailleurs, ça signifie pour lui, pour Édouard et pour sa mère Isabelle, qu'il est temps de reprendre un bateau et de repartir là-bas pour l'Angleterre, pour la cour d'Édouard II. Seulement, la reine, disons-le, est très réticente. Ça fait déjà des mois que son mari insiste pour qu'elle reprenne sa place auprès de lui. Il lui a même coupé les vivres pour accélérer les choses, pour qu'elle rentre en Angleterre seulement. Elle n'a cessé de trouver toutes sortes de motifs plus ou moins oiseux pour faire durer son séjour. Le dernier a été l'hommage de son fils. Bon, mais seulement là, maintenant, il faut bien reconnaître qu'elle est à court d'arguments recevables. Je cite Sophie Brouquet, qui a récemment écrit sur cette reine Isabelle. « Édouard II, dit-elle, pense que sa femme ne résistera pas à la réprobation qu'encourt une épouse qui abandonne son mari. L'abandon de mari n'est pas un délit en tant que tel, mais une faute qui entache la réputation en opposition flagrante avec la juridiction religieuse et morale du Moyen-Âge, fondée sur le caractère indissoluble du lien conclu entre les deux époux. » Isabelle n'entend pas céder. Les commentaires outrés de certains n'empêchent pas un certain nombre d'appuis de poids de se manifester. D'abord, le prince Édouard tient à demeurer avec elle. Charles IV se montre le bon frère. Il ouvre sa bourse pour cette sœur Isabelle, qu'il aime beaucoup par ailleurs et qui lui en a beaucoup imposé dans le passé. Il faudrait raconter toute l'histoire des bruits du roi Philippe le Bel. Ça nous entraînerait sur un autre terrain. Quant au pape, me direz-vous, eh bien, le pape à l'époque a des relations difficiles avec Édouard II et donc il n'a pas l'intention de s'offusquer officiellement de l'attitude de la reine, d'autant plus qu'à l'époque le pape est quand même sous l'influence de la cour de France. À l'évidence, son frère et le pape, en aidant Isabelle, ne sont pas désintéressés. Le fait que la reine et son fils aîné contestent l'autorité d'Édouard II, c'est pour eux, disons-le, du pain béni. À Londres, Édouard et les Despenser se crispent. Ils s'emportent. La reine, en tenant à distance chez le meilleur ennemi français, l'héritier du trône d'Angleterre, et elle-même, en refusant de rentrer, leur tient la dragée haute. Elle ne désarme pas. Alors que l'hiver approche, elle se sent assez forte pour poser ses conditions. Elle a un caractère extraordinaire, hein, cette femme, je vous l'ai dit. Despenser fils, assure-t-elle, s'est entremis dans sa relation sacrée avec le roi. Il est indispensable qu'il soit définitivement écarté. Sans cela, elle demeurera sur le continent. La reine se présente, nous dit encore Sophie Brouquet, comme une épouse qui déplore la perte de son mari et la pratique de la vie commune empêchée par un tiers. D'accusée, elle devient accusatrice et sa cause peut l'emporter devant un tribunal ecclésiastique. Isabelle s'habille de noir et porte la guimpe de veuve, qui souligne encore plus la beauté de ses traits. D'épouse entêtée, elle devient une victime, victime qui s'attire bien des sympathies. Et là, Édouard II est un petit peu dépassé, il faut bien le dire. Alors, il cherche à la raisonner par tous les moyens. Un temps, il veut convaincre sa femme que le jeune Despenser est des plus bienveillants envers elle. Et puis, lui et son entourage changent d'attitude et au contraire se répandent en menaces contre la reine. Les chancelleries européennes suivent ce bras de fer conjugal de près. De manière naturelle, la ténacité d'Isabelle va conduire des ennemis d'Édouard II et plus encore des ennemis des Despenser, qui sont en train de prendre un pouvoir sans précédent en Angleterre, à percevoir cette reine comme un véritable recours. Et parmi ceux qui vont se raccrocher à Isabelle, un seigneur hardi qui a 38 ans, il sort complètement du lot, ce Roger Mortimer. Avec son passé émaillé de tours de force romanesques, sa vie est un incroyable roman. Il a été une figure de premier plan de révolte contre Édouard II quelques années plus tôt. Ça s'est mal fini pour lui à l'époque. Il a été pris, il a été jeté dans la tour de Londres et il a simplement de justesse échappé à la hache du bourreau. Il a réussi à s'échapper et il est passé outre-Manche. Et maintenant, Isabelle est devenue tout naturellement son alliée. Leur revanche, si vous voulez, vont dans le même sens. Il est possible que, sans trop tarder d'ailleurs, une galanterie entre le baron intrépide et la reine en exil se soit mêlée à ce qui au départ n'était qu'une connivence politique. Isabelle et Mortimer ne vont pas en rester à des intentions vagues. Au fil de l'année 1326, on les voit monter, un complot, en tout cas toute une véritable opération militaire. Ils ont bien l'intention d'aller se positionner en Angleterre et pourquoi pas de s'emparer de la couronne d'Angleterre, vous imaginez ? Alors, pour cela, alors que Charles IV rechigne à aller trop loin dans un appui ouvert à sa sœur, bien entendu, ils vont devoir, ces deux nouveaux alliés, se ménager des alliances, ou au moins en tout cas des bienveillances. Alors, on voit des messagers qui s'élancent un peu partout à travers l'Europe, on envoie des messagers en Écosse, on envoie des messagers aux Pays-Bas, et puis bien sûr, en Avignon, auprès du pape, il faut que le pape soutienne la reine Isabelle et son allié Mortimer. Le comte de Hainaut, Zélande et Hollande va se montrer le plus réceptif. Lui comprend très bien l'opportunité qui s'ouvre, opportunité liée à la présence du jeune Édouard aux côtés d'Isabelle. Le marché se résume ainsi. Si on lui garantit à ce comte de Hainaut, si on lui garantit que le prince de Galles sera son gendre, eh bien lui, de son côté, il promet un soutien militaire. Isabelle accepte et c'est ainsi qu'à la fin de septembre 1326, une centaine d'embarcations avec à leur bord environ 1500 combattants s'éloignent du rivage de la Hollande méridionale, destination l'Angleterre. Encore une ouverture d'opéra romantique, en l'occurrence celle du Jeanne d'Arc, Giovanna d'Arco de Giuseppe Verdi. L'Orchestre symphonique de Londres était sous la baguette de James Levine.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Les bateaux d'Isabelle abordent la côte anglaise à une centaine de nos kilomètres au nord-est de Londres. Vous avez bien compris que c'est une opération militaire qui est à l'œuvre. Et évidemment, les alliés d'Isabelle, qui jusqu'alors étaient restés extrêmement discrets, inutile de vous dire, vont pouvoir s'éveiller. Ils accostent un peu avant midi, nous dit Sophie Brouquet, près de la rivière Orwell, tout près des domaines du comte de Norfolk, qui est le demi-frère du roi, qui ayant appris la nouvelle du débarquement, ne tarde pas à rejoindre Isabelle, Mortimer et le prince, ainsi que son frère, le comte de Kent, dans l'après-midi. Les soldats construisent rapidement une cabane pour y abriter la reine dans le plus grand confort possible. Pendant ce temps, les vivres, les chevaux et les armes sont débarqués et les bateaux repartent aussitôt en Hollande. Le sort en est jeté. Les envahisseurs ne peuvent plus revenir en arrière. C'est comme quand on dit, vous connaissez l'expression, brûler ses vaisseaux. Mais là, c'est le cas. Les navires sont repartis. Eux, maintenant, sont là, à pied d'œuvre. Vous aurez compris quand même qu'autour de la reine Isabelle et de son compère Mortimer se trouve un certain nombre d'alliés de poids, à commencer par un certain nombre de membres de la famille royale. Alors, le roi Édouard, lui, est dans sa capitale. Il a de quoi être déçu de ne pas avoir pu contrer ce débarquement que pourtant il avait anticipé, mais il a aussi des raisons de se réjouir. La troupe autour de sa femme n'est somme toute pas si impressionnante qu'on aurait pu le croire. Encore une fois, le roi Édouard, dans le jugement qu'il porte sur cette troupe justement, va manquer de discernement. Ce qu'apporte Isabelle, ce ne sont pas seulement des combattants et des armes, c'est pour beaucoup une réponse à un problème qui, depuis longtemps, leur apparaissait intolérable, celui de la faiblesse d'un roi au prestige complètement rogné, ce roi dominé par les Despenser, père et fils, surtout fils, évidemment. Sans tarder, les rangs d'Isabelle et de Mortimer vont s'étoffer et l'on voit se constituer ce qu'il faut bien appeler une véritable armée. De fait, les gesticulations d'Édouard II ne peuvent pas grand-chose face à ce qui est en train de devenir une lame de fond, une vague qui grandit devant lui. Et quelques jours après le débarquement, le roi et ses deux âmes damnées jugent même préférable de renoncer à Londres où la révolte gronde. Ils sont obligés de battre en retraite et c'est une véritable débandade qui commence, une course-poursuite en fait. Despenser père est le premier débusqué par les amis d'Isabelle à Bristol. Il est immédiatement jugé, si l'on peut dire, et mis à mort le 27 octobre. Quant à Despenser fils, qui est auprès du roi, bien entendu, il va être découvert. Les deux d'ailleurs, Édouard et Despenser, vont être découverts quelques jours après au sud du pays de Galles. Ils sont complètement esselés. Leur ancienne grandeur a été rincée par une de ces averses dont les îles britanniques ont le secret, déjà à l'époque, vous voyez. Le favori, sans surprise, va subir les pires sévices et sa tête va finir, selon le raffinement du temps, sur le London Bridge. Quant au roi, eh bien le roi, entouré tout de même d'un certain respect dû à son prestige et à son rang, le roi est envoyé dans une place forte du centre de l'Angleterre, près de Coventry. Le sort qu'on lui réserve est relativement clément, en tout cas pour le moment. Isabelle, de son côté, doit régler le problème d'un souverain vivant et donc encore pourvu d'une part de légitimité, qu'on le veuille ou non. La haine que suscite Édouard va faciliter néanmoins les choses. Les crimes d'Édouard II sont méthodiquement énumérés et le principe de sa déchéance est validé par le Parlement dès le mois de janvier 1327. Ce qui veut dire que maintenant, ayant parfaitement réussi son coup, ayant réussi à calmer tous les alliés qu'elle pouvait avoir sur le continent et à rallier sur place un certain nombre des grands potentats d'Angleterre, la reine va pouvoir gouverner. Et elle va pouvoir gouverner avec Mortimer. Alors vous allez me dire, le nouveau roi, c'est Édouard III qui est encore jeune. Et bien justement, comme il est jeune, on peut facilement le manipuler. Enfin, quand je dis facilement, la vérité, c'est que ça n'est pas si simple. D'abord parce que la reine Isabelle demeure unie par mariage à l'ancien roi, ce qui veut dire que moralement, la situation est assez douteuse. Elle vit de façon maritale avec Mortimer quand même. Et puis par ailleurs, il y a un certain nombre de tentatives pour soustraire Édouard II à sa prison, et ces tentatives ont de quoi l'inquiéter parce que ça prouve qu'il y a quand même autour de l'ancien roi Édouard II des partisans qui n'ont pas l'intention pour autant de se laisser faire. Voilà qu'au début de l'automne 1327, une nouvelle se met à courir à travers les villes d'Angleterre et les campagnes d'Angleterre. Nouvelle qui va régler le problème, c'est que Édouard II serait mort brusquement dans sa prison. Tiens donc, l'événement intrigue. Certains disent qu'en fait, il s'agit d'une fuite maquillée. D'autres évoquent un accident de santé. D'autres encore, évidemment, vont évoquer un meurtre. Et même un meurtre atroce. Puisque selon une variante, des meurtriers à la solde de Mortimer l'auraient oxy en l'embrochant par le fondement avec une tige incandescente. Vous imaginez ça. La récente biographe d'Isabelle se montre tout à fait sceptique à ce propos. Le plus probable, nous dit-elle, c'est que le crime ait été instigé de manière plus ou moins précise par Mortimer, sans qu'on puisse du tout être certain du modus vivendi, et sans qu'Isabelle, d'ailleurs, et su ce qui allait se passer. Il est probable qu'on ait tenu la reine, ce qu'on devrait appeler maintenant la reine mère, qu'on l'ait tenue relativement à l'écart du complot qui se tramait contre son mari. Le pouvoir d'une reine mère n'est jamais éternel au demeurant, parce que le principe, c'est que son fils grandit, bien sûr, et en 1330, Édouard III a 17 ans. Il estime qu'Isabelle est le terrible Mortimer, qui est décidément un peu trop sûr de lui, il estime qu'Isabelle et Mortimer doivent lui passer la main. Le lien du favori avec Isabelle n'arrange sans doute pas l'impatience qu'éprouve le fils devant ce qu'il considère sans doute comme un véritable scandale. En automne, c'est à son tour d'ourdir un coup d'État et de faire arrêter Mortimer. On dit souvent que l'histoire de France est un roman extraordinaire, mais que dire de cette histoire d'Angleterre ? Vous avez vu les rebondissements, les retournements permanents. Isabelle, totalement déconcertée par ce qui est à l'œuvre, aurait plaidé « noble fils ». Ayez pitié du gentil Mortimer. Gentil, à l'époque, ça voulait dire noble. Édouard III ne fléchit pas devant l'exhortation maternelle. Le favori à la politique controversée va être jugé, puni du châtiment suprême, et Isabelle va vivre encore presque 30 ans, écartée du pouvoir pour l'essentiel, ce pouvoir qu'elle avait su conquérir avec une détermination, avec une hardiesse peu commune. Nous allons retrouver un homme d'une hardiesse et d'une détermination peu communes, c'est Christian Morin. Bonjour Christian.
Vous savez très bien que vous ne risquez pas votre tête avec moi.
Non, c'est vrai, j'espère en tout cas.
Là, c'est toujours très agréable d'évoquer les tortures et la façon dont les gens étaient tués à cette époque-là. Je pense, vous savez, qu'on évoque aujourd'hui, vous l'avez dit ce matin, au passage d'antenne avec Guillaume Durand, et Guillaume en a parlé, le 50e anniversaire de la disparition du général de Gaulle, mais je pense que cette année, on ne peut pas ne pas évoquer le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, puisque c'est avec lui que nous allons recommencer en musique dans un petit instant. Donc Beethoven est bien présent.
Fait, cette année 2020 devait être l'année de Gaulle et l'année Beethoven. L'année de Gaulle, on va y arriver parce que ce mois de novembre réserve quand même un certain nombre de grandes solennités. Pour ce qui est de l'année Beethoven, disons les choses, la Covid-19 aura eu un peu raison du maître.
Heureusement que Radio Classique est là pour distiller justement des nouveautés, comme ça va être le cas dans un petit instant. Merci Franck, excellente journée.
Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.